Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, on va s'intéresser à quoi ?
Eh bien Julia, aujourd'hui on va tenter de libérer un peu la parole autour d'un sujet encore très tabou, l'addiction. Mais alors l'addiction, pas forcément quand on la subit soi-même, plutôt quand on doit en être spectateur. Je vous explique, on va se poser cette question ce matin, comment aider un proche à sortir de l'addiction ? On fera le point parce que nul n'est à l'abri de cette expérience et que pour mieux les combattre, il est nécessaire de bien les connaître, ces addictions qui peuvent toucher un frère, une mère ou même un ami. Pour en parler, deux invités seront avec nous aujourd'hui. Jérôme Adam, auteur et producteur du film sur le sujet Tout pour être heureux, actuellement en projection débat dans toute la France, ainsi que Jean-Pierre Coutron, addictologue, psychologue clinicien et porte-parole de la Fédération Addiction.
Ensuite, à 11h45, comme tous les jours, ce sera notre séquence tendance avec notre duo de chroniqueurs. Il y aura d'abord Soizic Belin qui viendra nous éclairer sur cette mode actuelle qui consiste à faire ses bijoux soi-même. Et enfin, on va terminer cette émission dans la gourmandise avec le chef Abdel Alaoui. Il va nous expliquer les bases pour réaliser de délicieuses pâtisseries orientales. Vous l'entendrez, c'est pas si compliqué et surtout, ce sera vraiment délicieux. C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good, celle qui est là tous les jours pour vous rendre la vie plus facile ou en tout cas pour vous aider à mieux comprendre ce qui nous entoure. Et donc notre question du jour sera la suivante ce vendredi. Comment aider un proche à sortir de l'addiction ?
Et oui, parce que même si on cache ce problème sous le tapis trop souvent, les addictions sont un fléau en France et chacun d'entre nous peut y être confronté un jour. Mais ce matin, on va prendre un angle un peu différent pour traiter de ce sujet. On va prendre par la main tous ceux qui sont spectateurs de la conduite addictive d'un proche, que ce soit un ami ou un membre de votre famille. Comment repérer le problème et surtout l'accompagner vers le chemin de la guérison ? On va détailler tout ça dans quelques instants avec nos invités. Mais pour commencer, on va écouter l'enquête sur le sujet et surtout sur le terrain de Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour à tous. Effectivement, je vous laisserai la partie comment aider quelqu'un qui a une addiction. Moi, je me suis intéressé directement aux addictions des Français. C'est quoi votre addiction à vous ?
Au thé, ça va. C'est pas nocif. Enfin, pas trop nocif.
Moi, c'est la baguette. J'adore la baguette. Non, les sucres.
Et les chips. Oui, j'ai des petites addictions, oui.
Un petit peu. Mais c'est pas très grave. Comment on fait du sport, ça va. Mais impossible de faire un régime, quoi.
On a tous nos petites addictions. Est-ce que c'est une addiction ? Je ne sais pas. Et ça commence très jeune, puisque même les ados peuvent être addicts.
Je suis addict au sucre, genre les boissons sucrées, boissons gazeuses. J'aime trop ça, les bonbons et tout.
Moi, c'est le chocolat sous toutes les formes.
Moi, je pense que j'ai une addiction au téléphone. Hein. Je ne peux pas m'en passer tout le temps dans ma main.
Alors, rassurez-vous, je pense que tous les ados de France ont l'addiction au téléphone. Hein. Même les grands de plus en plus. Mais certains ados ont une addiction bien particulière, bien à eux, quoi.
Moi, c'est les dramas coréens.
Alors ça a fait marrer les amis, des dramas coréens, mais ne rigolez pas, c'est des séries télé coréennes qui cartonnent, un peu des thrillers, et effectivement c'est pas les seuls. Alors pourquoi cette addiction ?
Tout a commencé sur Netflix, et j'ai essayé une série, et j'ai regardé 10 000 et je les ai toutes terminées sur Netflix.
Alors voilà, ne tombez pas dans les dramas coréens. Les nuits sont terminées, mais la plus grosse des addictions, je voulais vous quitter là-dessus, je l'ai trouvée. Une addiction très très peu commune. C'est un enfant qui m'a parlé de cette terrible addiction.
Mes doudous, il y en a dans mon lit et il y en a aussi par terre. Il y a un bac par terre et il y en a d'autres dans mon lit.
Et alors, t'en as combien en tout ?
50.
Ah, 50, c'est
ça c'est l'addiction, surtout quand on dit qu'avec les années on remplace les doudous par les chéris.
Oh là là, ça va faire un bourreau des cœurs ça.
On verra bien.
Merci Clément Lanoux, on va maintenant se tourner vers nos spécialistes. Je commence par vous Jean-Pierre Coutron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes addictologue, psychologue clinicien et porte-parole de la Fédération Addiction. Avec nous également Jérôme Adam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur et producteur d'un film qui traite de ce sujet, ça s'appelle Tout pour être heureux, c'est une question. Il est actuellement en projection débat dans toute la France. Alors justement, Jérôme, pourquoi vous avez fait ce film ? Je crois que vous avez perdu votre frère à cause d'une addiction. Est-ce que c'est le point de départ de ce projet ?
Alors le point de départ, effectivement, c'est l'histoire de mon frère, mais ça remonte à plus de 10 ans maintenant, puisque j'avais voulu faire une fiction long métrage qui racontait son histoire et comment j'avais pris conscience sur le tard finalement des angoisses qui le rongeaient. Donc c'était un long métrage qui racontait son histoire et la mienne. Et puis il y a quelques années, j'ai rebondi avec un format documentaire où là je donne la parole aux sœurs et aux frères des personnes dépendantes. Et donc c'est ce format documentaire qui est actuellement projeté en salle lors de projections débat sur tout le territoire.
Alors justement, dans ce film, on va donc à la rencontre de personnes qui avaient un proche concerné par ce problème. Comment le travail a été effectué justement pour réaliser ce film?
Alors, l'une des premières difficultés, bien sûr, c'est de trouver des personnes qui acceptent de parler de ce sujet, puisqu'il est encore tabou, il est en tout cas rempli de clichés. On a souvent l'image de la délinquance, de la déchéance, de personnes moins que rien. Donc finalement, déjà, il faut vaincre tous ces tabous et trouver les personnes qui acceptent de témoigner. Et puis aussi, la difficulté finalement, c'est de trouver des personnes qui acceptent de témoigner alors que l'histoire est... fini ou pas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a été plus facile finalement de trouver des personnes pour lesquelles la personne était malheureusement décédée que la personne qui s'était sortie de l'addiction. Donc ça, c'était une autre difficulté, réussir à faire parler des personnes qui avaient vaincu l'addiction et qui acceptaient quand même d'en parler, même si c'était derrière eux.
Alors Jean-Pierre Coutron, vous participez justement aux débats qui suivent les projections du film en salle. Qu'est-ce que le film apporte de plus sur le sujet de l'addiction? Car il ne parle pas des personnes addictes, mais surtout de leurs proches. Est-ce que c'est un regard nouveau qui était nécessaire?
Oui, parce que c'est sous-entendu par votre question. On a souvent des films sur le danger des substances. On a souvent des films qui racontent l'histoire de quelqu'un qui s'est piégé. Mais on a rarement des films qui montrent de façon aussi naturelle, parce que je crois que c'est une des grandes qualités du film, c'est qu'il n'est pas du tout scénarisé. Les personnes disent au fur et à mesure ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont compris, qui donnent la parole à ses entourages, donc frères, sœurs, parents, vont dialoguer librement dans ce film. Et ça, c'est original et c'est précieux.
Est-ce que vous diriez que l'addiction, c'est un sujet tabou et particulièrement en famille?
Ce que je dirais surtout, c'est que l'addiction, souvent, on parle du mécanisme de dérèglement, le circuit de la récompense, le cerveau. On oublie, en étant parfois trop focalisé là-dessus, qu'au départ, l'addiction, c'est une maladie du lien, une maladie de la façon dont on est avec son entourage. Or, l'entourage numéro un, c'est la famille. Et quand on est parent, quand on est frère, quand on est sœur, et qu'on a quelqu'un qui va mal, c'est très dur de le reconnaître et de se le dire. Donc le premier tabou, il est là.
Mais alors, quand vous dites une maladie du lien, ça veut dire quoi? C'est des gens qui ont du mal à créer le lien, donc ils le créent autrement?
Ça veut dire qu'il y a des tas de façons de ne pas à l'aise dans le lien à l'autre. Jérôme évoquait pour son frère des angoisses. D'autres, c'est la crise d'adolescence. D'autres, c'est... Voilà, on n'est pas bien et on prend des produits qui ont un effet un peu magique. On ne va pas faire l'éloge des drogues, c'est pas le genre de la maison, mais que ces produits, en 10 minutes, ils vous changent. Donc, vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé la solution. Mmh. Voilà. Hein. D'un seul coup, ils vous détendent, ils vous donnent plus de confiance en vous. Et quand vous avez du mal à vous caler avec votre environnement, quand vous avez du mal à tenir face à un autre, quand vous avez du mal à vous affirmer, eh ben ce petit coup de booster que donne le produit vous paraît absolument génial. Voilà. Et c'est là, cette maladie du lien, elle peut avoir toutes ces formes-là, mais c'est dans cette adaptation qu'elle commence.
Jean-Pierre, est-ce que vous diriez que le regard, quand même, il a changé, on l'espère, ces dernières années, sur les addictions au sens large? On regarde moins les personnes dépendantes comme des marginaux, non? J'ai l'impression, quand même.
Oui, je crois qu'on... Alors, vous y contribuez, des émissions comme celle-ci y contribuent, à rappeler le film « Tout pour être heureux » y contribue, à montrer que ça arrive dans des familles où il n'y a pas forcément de problème majeur, que ça arrive sans forcément d'échec social. Bien sûr que ça existe, mais ça ne résume pas ces situations où on peut être en difficulté avec soi-même dans le rapport aux autres. Et ça, c'est un des grands progrès que l'on a pu faire. Après, voilà, le petit challenge, c'est qu'à partir du moment où on se sent malade, c'est un peu, mais c'est pas propre à l'addiction. Hein. Je peux me laver les dents parce que j'ai appris qu'il faut me laver les dents, mais aller voir le dentiste parce que j'ai mal aux dents. Le petit pas supplémentaire de se reconnaître malade, il est toujours plus compliqué.
Très bien, vous restez avec nous tous les deux, on ne fait que débuter cet entretien. Entretien sur un sujet sensible, aujourd'hui on s'intéresse au problème des addictions, mais vu pour une fois du côté des proches. Pas de ceux qui en sont victimes, mais de ceux qui vivent et subissent ce problème juste à côté, bien souvent impuissants. Eh bien on va vous donner quelques repères pour déjà identifier ce type de problème, parfois bien caché. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, comment accompagner un ami, un père, une fille vers la guérison? On vous dit tout dans quelques minutes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Ce matin, nous réfléchissons à cette question: comment aider un proche à sortir de l'addiction? Un sujet sensible, honteux même parfois pour ceux qui le vivent, et pourtant ce fléau touche tellement de personnes en France. Et bien nous, on a décidé d'en parler ce matin, et pour ce faire, ils sont toujours à nos côtés: Jean-Pierre Coutron, addictologue, psychologue clinicien et porte-parole de la Fédération Addiction. Avec nous également Jérôme Adam, auteur et producteur du film, d'un film qui traite de ce sujet, ça s'appelle Tout pour être heureux, actuellement en projection des débats dans toute la France. Alors Jean-Pierre Coutron, on va reprendre les bases peut-être pour bien comprendre de quoi on parle. Est-ce que déjà vous pourriez nous donner la définition d'une addiction? Parce qu'on a entendu plein de choses tout à l'heure dans le reportage de Clément Lanoux, les chips, le sucre, enfin c'est pas exactement de ça qu'on parle. Hein, voilà.
Oui, généralement, même les addictologues, on avoue toujours l'addiction la plus respectable. Être addict au rock, au travail. L'addiction, c'est la perte de contrôle d'une substance psychoactive ou maintenant d'un appareil, d'un comportement qui nous permet d'avoir des effets psychoactifs. Voilà, c'est la perte de contrôle. Avant, c'est de l'usage. Si je me sers de mon téléphone portable, c'est de l'usage. Si je n'arrive pas à doser le temps que je passe sur mon téléphone portable, je rentre dans des comportements addictifs. Si je bois un verre d'alcool, c'est de l'usage, avec tous les risques de l'usage d'alcool, même à dose modérée. Certains se reconnaîtront.
Deux verres par jour et pas tous les jours. Hein.
Et pas tous les jours et pas plus de 10 par semaine.
Voilà.
Si je ne peux pas contrôler ma consommation d'alcool de façon compulsive, dans une soirée ou sur une semaine, je suis addict. Voilà, c'est la perte de contrôle.
Et est-ce que l'addiction, c'est comparable à une maladie? Parce que si vous me répondez oui, ça laisse présager qu'on peut la guérir, du coup, cette addiction.
Alors d'abord, hélas, on ne guérit pas toutes les maladies. Il y a un certain nombre de pathologies sur lesquelles on a beaucoup progressé, le cancer, mais on ne guérit pas tous les cancers. La deuxième chose, c'est que l'addiction, il y a un versant maladie à un certain stade, et il y a un versant comportement social, usage d'objets, de substances, de l'autre côté. Et l'addiction, ça va sur un continuum de l'usage le plus banal, avec ses risques, à la maladie addictive avec le dérèglement et un certain nombre de problèmes qui peuvent être, eux, plus difficiles à traiter. Parfois, le meilleur traitement, c'est l'abstinence absolue qu'il faut pouvoir organiser petit à petit.
Est-ce qu'on est tous égaux face aux substances addictives? Comment on explique que certaines personnes tombent plus facilement? On a l'impression que d'autres, dans ce problème-là, on en retrouve vraiment dans tous les milieux sociaux. Par exemple, ça c'est une vérité?
Alors, il y a ce qu'on appelle des vulnérabilités sociales, ce qui font que selon les milieux sociaux, selon les conditions de vie, on peut avoir des paramètres, mais il y a aussi des vulnérabilités psychiques, selon les histoires de vie. On a vécu un traumatisme, on a des difficultés familiales, et puis il y a des vulnérabilités physiologiques, génétiques. Il n'y a pas un gène de l'addiction, mais il y a des paramètres qui font qu'on n'a pas le même physique et qu'on n'aura pas la même réaction à la substance. Donc tout ça se mélange, peut s'équilibrer, l'effet positif de l'un peut rencontrer l'effet négatif de l'autre, mais effectivement le principe de base à savoir, c'est qu'on n'est pas égaux et que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre.
Mais tout de même, est-ce qu'il y a des profils de personnes plus à même de tomber dans l'addiction de par leur genre par exemple, de par leur âge? J'ai quand même l'impression que chez les personnes âgées, il n'y a pas beaucoup d'addicts, ou alors ils le
alors,
disent pas.
Alors détrompez-vous, le cannabis arrive dans les maisons de retraite, c'est
non,
normal.
Bah oui.
C'est un problème générationnel.
On n'en parle jamais de ça. Hein.
Voilà, l'alcool, on ne supporte pas l'alcool de la même façon quand on a 80 ans et ça donne des problèmes d'addiction. Et moi, dans ma consultation, j'ai un certain nombre de personnes pour ces problèmes-là. Voilà, hein.
À 80 ans, vous...
Bien sûr. Ouais.
Mais vous les traitez pour addiction à 80 ans? On n'a pas le droit d'être addict.
On les traite pour addiction. On fait en sorte qu'elles souffrent moins de leur comportement. Voilà, on ne va pas fixer des objectifs. Après, le sens de votre question, c'est que majoritairement, et c'était la préoccupation qui a amené le film de Jérôme, c'est que c'est au cours de l'adolescence que majoritairement, toutes les études le montrent, les premières expériences se font et qu'entre guillemets, c'est là qu'on rencontre et qu'on rentre dans le risque addictif.
Homme ou femme, il n'y a pas de différence?
Alors, il y a des différences, il y a un peu moins de femmes aujourd'hui encore pour des histoires probablement
culturelles. Ou alors elles se cachent plus, non, peut-être, les femmes?
Et elles se cachent plus, et elles accèdent moins aux dispositifs de soins, ainsi de suite. Mais quand même, les études de l'Observatoire qui travaille en population globale montrent qu'il y a moins de femmes. À l'inverse, sur un certain nombre de conséquences secondaires, le corps n'est pas le même chez un homme, chez une femme, et donc il y a des conséquences, notamment au niveau de l'alcool, qui sont supérieures chez la femme. On le sait.
Vous avez dit qu'il pouvait y avoir donc des gènes éventuellement de l'addiction, même si ça ne fait pas tout, Jérôme Adam. L'hérédité, c'est une peur, je crois, qui revient beaucoup dans le film. Vous-même, qui avez perdu votre frère, vous craignez que cela touche votre fille, je crois. Pourquoi cette crainte ?
Bon, à force de travailler sur l'histoire de mon frère, je me suis rendu compte que finalement j'avais peur de la revivre avec ma fille, qui pourtant, quand on a commencé le tournage du film Tout pour être heureux, elle n'avait que 10 ans. Mais je me suis rendu compte que j'étais angoissé à cette idée, en fait, à l'idée de pouvoir revivre cette situation d'addiction avec elle. Et plutôt que de me dire bah, j'ai peur et je vais mettre ça sous le tapis, je me suis dit comment essayer de conjurer cette peur et essayer d'en faire quelque chose de positif. Et donc, c'est là où j'ai eu l'idée d'aller à la rencontre des sœurs et des frères des personnes dépendantes qui, comme moi, en fait, ont connu des histoires tragiques ou des histoires qui peuvent bien se terminer, mais en tout cas des moments difficiles. Donc, cette crainte était là. Je n'ai pas tout de suite mis le mot d'hérédité parce qu'effectivement, il y a un facteur héréditaire dans l'addiction, mais il n'y a pas que ça. Il y a des vulnérabilités, comme le disait Jean-Pierre. Et notamment, moi, celle dont j'ai pris conscience avec mon frère, c'est le côté angoisse. Et j'essaye d'être vigilant avec ma fille sur le fait qu'elle s'affirme, qu'elle ait confiance en elle, même si aujourd'hui, elle n'a que 11 ans. Je l'encourage vraiment à s'affirmer, à s'exprimer, que ce soit à travers des activités. Au début, on lui a fait faire du judo, du théâtre, qui lui ont plu et qui ont permis de s'affirmer. Mais aussi vis-à-vis de ses copains et de ses copines, qu'elle n'hésite pas à exprimer ce qu'elle ressent, à dire ce qu'elle pense. Voilà, c'est des points sur lesquels je suis vigilant. Je ne dis pas que ça suffira, mais je pense que c'est déjà c'est important d'avoir ces compétences. En tout cas.
Alors Jérôme, est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre du film « Tout pour être heureux » Parce que ça détonne un peu avec le côté sombre qu'on imagine avec les problèmes addictifs. Cela dit, le titre est tourné sous forme de question quand même. Hein.
Voilà, « Tout pour être heureux » avec un point d'interrogation à la fin. Ben, à l'origine, en fait, j'étais vraiment frappé par l'étiquette de délinquant qui pouvait être collée sur mon frère. Ce côté bon à rien, alors que c'était quelqu'un de très brillant, et dans le film on voit des personnes très brillantes qui ont fait des grandes écoles, etc. Et donc voilà, je voulais prendre le contre-pied de cette image de délinquance et de bon à rien, et puis montrer que c'était pas toujours ces clichés avec des quartiers difficiles, mais qu'il y avait vraiment forcément tous les quartiers qui étaient concernés. Et donc d'où ce titre, Tout pour être heureux, avec un point d'interrogation. Et ça fait aussi écho à mon histoire, puisque moi j'entendais pas mal dans mon entourage que voilà, mon frère avait tout pour lui, tout pour être heureux, beau gosse, intelligent, d'un milieu plutôt privilégié. Donc, beaucoup d'incompréhension autour de son addiction, finalement. D'où le titre « Tout pour être heureux ». Et la semaine dernière, j'étais lors d'une projection privée à Aix-en-Provence, dans une école, un centre d'apprentissage, en fait. Donc, public, c'était des 16-20 ans. Et l'un des points positifs et qu'ils ont beaucoup aimé dans le film, c'est cette idée de ne pas coller l'étiquette de délinquant aux personnes addictes. Et ouais, tout à l'heure, vous parliez de tabou. Est-ce que finalement, le regard de la société a évolué ? Ben, quand vous avez des jeunes de 16-20 ans qui vous font ce retour en disant « c'est vraiment super qu'on ne colle pas cette étiquette de délinquant aux addicts », ça en dit long encore sur le chemin qui reste à faire.
Alors, on va passer à un aspect un peu plus pratique pour être utile à nos auditeurs. Jean-Pierre Coutron, à quoi on reconnaît quelqu'un qui est dans notre entourage, justement, victime d'une addiction ? Quels sont les signes qui devraient nous alerter, en tout cas ?
C'est jamais facile, hein, mais ça tourne autour de la perte de contrôle. Donc les signes qui montrent que la personne n'arrive pas à être à la hauteur du contrôle qu'elle dit encore vouloir avoir. Voilà. Donc elle s'engage à faire à telle heure, elle ne fait pas. Elle s'engage à ne pas reboire le soir même, alors qu'elle va reboire le soir même. Elle s'engage à ne pas fumer avant. Voilà. Donc c'est ces signes-là. Hein. On est d'accord, on ne porte pas sur l'usage, on porte sur l'addiction. L'addiction, ce n'est pas j'en prends de temps en temps, c'est je n'arrive plus à ne pas en prendre, alors que je commence à vouloir ne plus en prendre à ces moments-là. Et puis, il y a des signes qui sont dus à chaque produit. Voilà, l'ivresse alcoolique, l'euphorie avec un produit comme le cannabis, des états d'excitation avec des produits stimulants comme la cocaïne ou autre. Enfin, on ne va pas rentrer, ce n'est pas tout de suite le sujet de l'émission, mais il y a aussi ces signes-là qui sont dus à produit par produit.
Et si les signes sont là et qu'on les a repérés, ok, mais comment ensuite on aborde le sujet ? Parce que ce n'est pas évident. Et puis, comme vous l'avez déjà plus ou moins dit, parfois les addicts sont dans le déni. Donc comment on fait pour leur en parler ?
Il y a beaucoup de témoignages dans le film qui attrapent un peu ça. C'est-à-dire qu'avec des regrets parfois d'un frère, d'une sœur, de dire j'aurais dû plus tôt, ainsi de suite. Souvent, le piège dans lequel on va tomber, c'est de lui en parler pour lui dire tout de suite arrête. Or, comme l'addict, il n'a pas tout de suite envie qu'on lui dise arrête, parce que pour lui, ça fonctionne encore comme une solution. Ça vient calmer une angoisse, ça vient calmer quelque chose. Voilà, la première étape, c'est de lui dire qu'on voit qu'il en consomme, qu'on imagine que ça lui sert à quelque chose, et que c'est de ça dont on aimerait parler. C'est de à quoi ça lui sert.
Justement, Jérôme, vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas, vite, pas vite, vous, des problèmes de votre frère. Vous avez mis combien de temps, par exemple, à verbaliser la chose avec lui ?
Je pense que je m'en suis rendu compte assez tard. Enfin, j'ai compris très vite qu'il consommait et qu'il avait des problèmes de consommation parce qu'il y a eu des attitudes avec des épisodes délirants pendant la nuit, des épisodes où il avait piqué des médicaments de ma mère pour compenser et trouver certains effets. Donc voilà, je me suis rendu compte assez vite. Je n'ai pas été dans le déni, contrairement à mon père, par exemple, qui, lui, ne voulait pas voir la situation. Donc ma mère et moi, on était assez convaincus qu'il y avait un vrai problème de consommation et d'addiction. Mais après, pour comprendre ce qui se cachait derrière ça, ça a été très très long. Et avec ma mère, on disait, voilà, mon frère est malade. Mais moi, je ne savais pas ce que je mettais derrière ce mot malade. C'était une manière de ne pas le juger, par contre. C'était d'éviter de le considérer comme un bon à rien, etc. Donc c'était, je le qualifiais de malade sans savoir ce que je mettais. Et puis, dans notre histoire familiale, voilà, ma mère est décédée suite à une rupture d'anévrisme. Et une fois que ma mère est décédée, j'étais encore plus le confident de mon frère que je n'avais pu l'être auparavant. Et c'est là où j'ai vraiment réalisé et pris la mesure de ses angoisses. Et alors, je m'en suis voulu, moi aussi, parce que je me souviens que mon frère avait eu cette phrase un jour. Il m'a dit, oh, tu fais chier, je peux rien te cacher à toi. Et il pouvait rien me cacher, sauf que... Ce qui pourtant me paraît tellement évident après coup, ces angoisses, j'en avais pas pris la mesure. Je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Comment j'ai pu louper et ça passer à côté, alors qu'il disait lui-même que je pouvais rien lui cacher, quoi. Donc ça, j'ai peut-être mis quasiment 8-10 ans avant vraiment de comprendre qu'il était angoissé, et même peut-être plus que ça, quoi. Pour moi, ça reste toujours un échec, ça, l'avoir compris très tard.
Eh bien, merci à vous deux. Surtout, vous ne bougez pas. Hein. On va continuer à se questionner autour de ces questions d'addiction. Comment tenir la main d'un proche victime de ce problème ? Comment le conduire vers la voie de la guérison ? Et d'ailleurs, on verra aussi comment se faire aider soi-même quand on a été spectateur de tout ça. Parce qu'on en parle peu, mais passer parfois des années aux côtés d'une mère ou d'une sœur qui se détruit, évidemment, ça laisse des traces. Alors, comment penser ses propres blessures ? On va tout vous expliquer dans quelques minutes. Restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Comment aider un proche à sortir de l'addiction ? C'est notre question du jour. Et pour y répondre et surtout nous éclairer sur ce sujet, ils sont toujours avec nous ce matin. Jérôme Adam, auteur et producteur d'un film qui traite de ce sujet. Ça s'appelle « Tout pour être heureux », actuellement en projection débat dans toute la France. Et puis dans ce studio, il y a aussi Jean-Pierre Coutron, addictologue, psychologue clinicien et porte-parole de la Fédération Addiction. Alors Jean-Pierre, comment ça se traite concrètement une addiction ? D'ailleurs, faut-il toujours traiter ou pour certains, ils peuvent s'en sortir tout seuls ? Qu'est-ce qui détermine d'ailleurs qu'on va y arriver tout seul ou pas ?
Alors, c'est parfois surprenant, c'est ignoré, mais la majorité des addicts s'en sort sans aller consulter les professionnels. Toujours vexant pour les professionnels.
Vous n'êtes pas si efficace que ça,
je représente, mais j'en connais dans la salle qui ont réglé des addictions au tabac sans forcément aller consulter.
Oui, j'ai une bonne copine, cigarette électronique.
Ça, c'est le premier point, et ils s'en sortent parce que petit à petit, ils vont réaménager leur environnement, réaménager leur entourage. C'est la fameuse histoire, je rencontre quelqu'un, j'ai un boulot, j'ai
un truc.
Vous
savez que j'ai contaminé Julia aussi, elle a arrêté de fumer cette année.
Et oui. Ben voilà, ça
je
fonctionne
fais des petits,
comme ça.
Ça marche donc, bien. Hein.
Toutes les drogues confondues, avec un peu de différence selon l'intensité, on n'est pas obligé d'aller consulter. Après, bien évidemment, plus on rentre dans des problématiques complexes où il y a des problèmes psychopathologiques, des histoires de vie, des vulnérabilités dont on a parlé, plus là, il ne faut pas perdre de temps à aller consulter. Et le soin, eh ben, il va tenir compte des différentes situations. Parfois, il va mettre en avant le travail sur la famille. Parfois, il va mettre en avant les effets biologiques, physiologiques. Donc, on va être plutôt du côté du médicament. Parfois, il va mettre en avant le traitement de l'angoisse, les arrière-plans psychopathologiques qu'il y a derrière. Donc, le traitement de l'addiction, ce sont plusieurs pôles dominants qui vont être plus forts dans l'un, moins forts dans l'autre. On va piocher dans une boîte à outils assez différente.
On a parlé tout à l'heure des signes qui doit nous alerter chez un proche pour savoir si effectivement il a... Enfin, en tout cas, ouvrir les yeux et se dire, tiens, mon proche a un problème d'addiction. Une fois que j'ai ouvert les yeux comme ça, on peut se retrouver aussi très démuni. Qu'est-ce que je fais de mon proche chez qui j'ai identifié ce problème-là ? Est-ce qu'il y a des endroits en France, références, on va dire, chez qui je l'amène, s'il est d'accord pour aller consulter, par exemple ?
Alors, il y a beaucoup d'endroits pour aller consulter. Il y a des médecins en ville qui sont intéressés par les questions d'addiction. Il y a des centres spécialisés médico-sociaux dans lesquels, moi, je travaille, par exemple, ce qu'on appelle des CSAPA, des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, des consultations aux jeunes consommateurs pour les plus jeunes, ceux qui ont 15, 16, 17 ans. Il y a des services hospitaliers. Donc il y a une palette qui permet d'entrer à des niveaux différents. Et surtout, il vaut mieux y aller et puis se dire finalement,
j'en ai pas besoin.
Je me suis inquiété un peu pour rien, que attendre que le problème prenne une certaine intensité pour dire et si tu te faisais aider.
Jean-Pierre, les proches aussi, on en parlait hein, tout à l'heure, ont parfois souffert de l'addiction d'un père, d'un frère, d'un enfant. Ils ont besoin de soins aussi, eux, et si oui, lesquels ?
En tout cas, ils ont besoin d'être accompagnés, parce que ce que montre très bien le film, c'est l'impact que ça a. Il y a dans le film, il y a un témoignage entre une jeune sœur et un frère qui parle de l'impact que ça a eu. Voilà, il y a une plusieurs...
Ça détruit pas que l'addict, quoi, c'est ça.
Non,
hein,
mais c'est Jérôme le dit avec beaucoup de pudeur pour ce qui le concerne lui, mais les témoignages qui sont donnés dans ce film sont très forts de ce que ça demande à ces familles de supporter. Et donc une partie du travail que l'on peut faire, moi j'ai une partie de ma consultation, c'est de recevoir des familles et de les aider dans le cheminement qu'elles font avec leur addict.
Jérôme, dans le film, il est beaucoup question d'amour, de l'amour qu'on porte à quelqu'un qui est dépendant. L'amour, c'est, je ne dis pas le meilleur remède, mais c'est un remède important contre l'addiction d'un proche.
Alors, c'est un remède important. Et c'est vrai que dans le film, il y a notamment un jeune personnage étudiant, donc de 23-24 ans, qui revient beaucoup sur ce thème de l'amour et qui pense qu'il n'en a pas fait assez. Et l'idée, c'est aussi de montrer que si l'amour est nécessaire, il n'est pas forcément suffisant. Et donc là, il y a tout un travail de déculpabilisation à effectuer vis-à-vis d'Antoine. Maintenant, l'amour, ce que j'essaye de lui dire dans notre échange, dans le film, c'est qu'il doit être présent et donc il faut rester présent, tendre la main, mais ça ne suffit pas forcément et surtout on ne peut pas faire à la place de l'autre. Donc c'est tout ce dosage entre forme d'accepter son impuissance et être présent malgré tout. Donc ça c'est, mais moi le premier, hein, je suis passé par ces étapes où j'avais envie de faire à la place de mon frère, j'étais dans une logique très rationnelle, finalement trop rationnelle et un peu du genre allez aide-toi, le ciel t'aidera, donc on va trouver des solutions, on va agir ensemble et je comprenais pas et puis finalement, j'ai mis un peu de distance, j'ai accepté que je pouvais être finalement impuissant face à cette solution, mais une amie m'avait dit il faut que tu sois présent et que tu l'aides quand s'il te demande, s'il t'appelle, bah, tu lui montres que tu es là. Et ça, c'est aussi l'amour, ça vient montrer qu'on est présent quand
Bien sûr.
Nous appelle.
Mais Jérôme, prendre de la distance, parfois, c'est une solution aussi pour les proches. Certains ont choisi cette voie dans les témoignages que vous avez recueillis.
Alors effectivement, la distance revient également pas mal parce que il y a cette idée de réussir à faire sa vie malgré tout et de pas être trop impacté ou du moins mettre de la distance pour oui c'est ça faire sa vie donc faire
oui,
sa
on
vie,
entend
c'est...
par exemple des femmes qui quittent un mari alcoolique pour peut-être créer un déclic, ça existe ça. Alors est-ce que ça marche?
Alors ça, je laisserai Jean-Pierre répondre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse ferme là-dessus, sur le fait de quitter, de laisser l'autre. Est-ce que ça va être le déclic? Pour certains, c'est le déclic. Pour d'autres, ça ne va pas l'être, je pense. Donc il n'y a pas vraiment de réponse ferme et valable pour toutes les situations. Mais effectivement, parler d'une femme qui quitte son mari, moi, je connais des situations inverses. Hein, et l'alcool chez les femmes, d'ailleurs, c'est un tabou qui commence un petit peu aussi à voler en éclats, parce qu'il y a plusieurs livres là, qui sont sortis sur ce thème, l'alcool chez les femmes. Donc, oui, on voit ce besoin de mettre de la distance pour réussir à faire sa vie, je me répète, mais je pense que c'est ça l'idée. C'est de...
Jean-Pierre, alors la séparation, comme ça, brutale, parfois elle peut être déclic de guérison.
D'abord, il faut
ou pas
distinguer la séparation ou mettre de la distance, parce que quand on est parent, on a tous cette stratégie. Notre enfant fait une bêtise, il joue, là, et puis on va dire, je vais arrêter de le regarder, et je vais le laisser tout seul. Ouais. Alors d'abord, on a checké en tant que parent qu'il est dans un endroit où il ne peut pas se mettre en danger.
Qu'il y a des cache-prises, tout
voilà,
ça.
Et bon. Après, on le dit, on va le laisser. Donc c'est cette stratégie qui a été récupérée dans ce qu'on appelle les stratégies familiales. Et par moment, dans l'accompagnement qu'on fait aux familles, on va leur dire, non pas abandonnez-le, rejetez-le, parce que ça rajoute de la douleur. Mais sur un certain nombre de choses, vous vous mettez en retrait, vous le laissez, vous la laissez, cette personne, un peu se cogner à un certain nombre de choses, et ça peut aider. Et puis après, on revient, parce qu'on ne l'a pas rejeté.
Non,
on
n'a pas rompu le lien.
Voilà, on revient et on reprend ce qui a pu se dégager dans ce moment d'éloignement.
Alors Jérôme, vous faites des débats à l'issue des projections du film dans toute la France. Quelles sont les réactions les plus fréquentes des gens, même quand ils ne sont pas eux-mêmes concernés par ce problème? Qu'est-ce que vous avez le plus entendu?
Alors, il y a vraiment les personnes qui sont déjà concernées par le sujet, soit des consommateurs, des anciens consommateurs, soit les proches, où là, on a vraiment ce sentiment que la parole se libère et... C'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais on a l'impression d'entendre un grand merci de faire ce film pour qu'on puisse enfin en parler, nous aussi. Et puis, il y a les personnes qui ne sont pas forcément concernées ou qui ne pensent pas l'être, qui ne le savent pas. Et là, elles vont aussi se reconnaître dans le film, non seulement parce qu'elles comprennent que le sujet est universel et qui touche toutes les familles, mais aussi dans le film, comme on est sur des thématiques universelles, le sentiment de culpabilité, l'amour, le sentiment d'impuissance. Eh bien, j'ai beaucoup de témoignages aussi de personnes qui me disent bah, « Nous, on ne l'a pas vu comme un film sur l'addiction, mais on l'a vu comme un film où on va sur la résilience, sur l'acceptation d'une épreuve. » Et moi, par exemple, j'étais victime de dépression. Moi, j'ai connu telle tragédie dans ma famille, et ton film nous aide beaucoup aussi pour ça. Et ça, pour moi, c'est juste un retour que j'adore parce que ça dépasse le sujet de l'addiction, et j'adore essayer de faire d'une pierre deux coups pour faire assez simple. Et donc là, on est dans la prévention
et l'échange. Et pour nos auditeurs parents, qu'est-ce qu'on peut conseiller, Jean-Pierre, par exemple, comment on parle de drogue et d'alcool à ses enfants sans les braquer?
Elle a un fils de 15 ans, ouais. Ça l'intéresse beaucoup.
Est-ce qu'il faut en parler? À partir de quel âge on peut tenter de faire passer certains messages?
Bien sûr qu'il faut en parler. Moi, je crois qu'il faut être sur des choses très simples. Leur dire tous les risques, tous les dangers de ces produits, voilà, qu'ils aient de notre part une information
claire. Et pas
claire.
Je t'interdis de prendre une cuite voilà. À la soirée avec tes copains.
Alors ensuite, leur dire des interdits. On dit les risques, on dit du coup les interdits qu'on appuie sur ces risques.
Donc on peut dire je t'interdis de prendre une cuite.
Bien sûr, bien sûr.
Mais il l'apprendra quand même souvent.
Et il l'apprendra quand même. Et donc après, on va s'intéresser à la troisième chose. D'abord, il ne l'apprendra pas automatiquement. Mmh. Il l'apprendra un peu moins parce qu'il sait qu'on va guetter. Donc, tout ça, ce sera gagné. Et puis, on va s'intéresser à la troisième chose qui est, ceci dit, je sais que ce n'est pas aussi simple que ça parce que je sais que ces produits ont cet effet un peu magique et que cet effet un peu magique, ça ne fait pas de toi un monstre si tu te laisses un peu piéger. Donc, je préfère que tu me le dises si tu te fais un peu piéger et tu verras que je serai preuve d'intelligence si tu te fais un peu piéger. Voilà.
Donc prévention, œil avisé, règles et en même temps bienveillance.
Et puis, on est là. C'est-à-dire que moi j'ai passé, quand mes enfants étaient en âge, quand ils avaient entre 15 et 25 ans, puisque c'est l'âge qu'on donne, j'ai passé un certain nombre de soirées à attendre le retour pour checker de visu et dire là, il me semble que le contrat n'a pas été tout à fait tenu, vu la démarche et la façon dont tu as ouvert la porte, ou là, c'est bien, le contrat a été tenu et on fait preuve d'interactivité.
Et quand le contrat n'est pas tenu, peut-être demander pourquoi, qu'est-ce qu'il est allé
demander
chercher.
Demander pourquoi, et puis de temps en temps punir, ça fait pas de mal de punir. Moi, il m'est arrivé une fois, j'ai un fils qui avait avalé la loi, c'est souvent comme ça, il y en a qui avalait la loi, l'autre qui avalait l'élixir du bonheur. Celui qui avalait l'élixir du bonheur arrivait certaines fois en ayant bu un peu trop d'élixir de bonheur, quelle que soit la substance avec laquelle il se l'était procuré. Et donc il fallait lui dire eh ben, je crois que le week-end prochain ce sera un peu plus du côté de la 16 et de la privation. Oh, ça n'a jamais fait de mal.
Un petit week-end détox.
Mais ça n'a jamais fait de mal.
Allez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce matin pour répondre à nos questions. Je vous rappelle votre film, Jérôme, Tout pour être heureux, actuellement en projection débat dans toute la France. Vous serez à Chauvigny dans la Vienne le 14 mai, le 2 juin à Clermont-Ferrand, le 13 juin à Angers. Toutes les dates sont sur le site toutpourêtreheureux.film et je vous invite tous à aller le découvrir.
Eh bien, merci à tous les deux. On va maintenant passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous, dans laquelle Soizic Belin va nous éclairer sur cette mode actuelle qui consiste à faire ses bijoux soi-même. Et enfin, le chef Abdel Alaoui nous régalera avec ses conseils pour réaliser de délicieuses pâtisseries orientales. Je pense qu'on va passer un bon moment, alors restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi. À présent, on va donc lancer, comme tous les jours, notre partie tendance. Et donc, dans ce studio, il y a déjà le chef Abdel Alaoui. Bonjour Abdel.
Bonjour les filles, comment allez-vous? Ça va?
Très bien, mais qu'est-ce qu'on va manger de bon avec vous aujourd'hui? Je sais, parce que je vois ce qu'il y a devant vous.
On va manger plein de pâtisseries orientales. Voilà, je vais vous faire découvrir des petites pâtisseries, assez simples à réaliser d'ailleurs, parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est hyper compliqué. Et en fait, non, j'ai deux petites astuces à vous partager.
J'ai hâte, merci. Vous restez avec nous, Abdel, car pour le moment, c'est Soizic Belin qu'on va écouter. Bonjour Soizic.
Bonjour.
Alors, on parle souvent ici des tendances autour du DIY, le do it yourself, et maintenant, ce sont donc nos bijoux qu'on fabrique, c'est bien ça?
C'est ça, je sais qu'en fait, vous n'aimez pas ça. Hein,
Julia, pas tout moi. Non, pas trop non plus.
Alors, je suis là pour vous faire changer un tout petit peu d'avis, car l'été approche à grands pas, et que fait-on l'été?
Eh bien, on sort ses plus beaux atours.
C'est ça, on se découvre. Out les masques, bonjour, ravissante boucle d'oreille. Au placard, les pulls et manteaux d'hiver. Invitons les bracelets à nos poignets et parons nos coups de breloque 100% homemade. Pardon. Et je ne vous invite évidemment pas à sacrifier vos sachets de pâtes alimentaires. La fête des mères approche, laissons ça à nos tout-petits.
Mais alors, ça veut dire que vous nous embarquez dans un atelier bijoux, c'est bien ça?
Eh oui, figurez-vous que si c'était un petit peu ringard, il y a encore quelques années, les ateliers de fabrication de bijoux et les kits vendus par ces mêmes boutiques qui organisent des ateliers sont désormais totalement validés par la police tendance, celle des influenceuses, qui participent elles aussi désormais à ces moments satisfaisants entre copines. Et puis c'est aussi économique et donc non négligeable par les temps qui courent. Pour un bijou à 90€ chez une petite créatrice, vous débourserez une trentaine d'euros. Le résultat est bluffant et puis vous repartez aussi avec un savoir-faire. Alors j'ai échangé avec Anne-Sophie Huchet, la co-directrice de la boutique La Cabane à Perles située à Rennes. Elle organise des ateliers et voici le déroulé.
Nos ateliers de création de bijoux durent 2 heures. Donc, quand la cliente arrive, elle a le choix parmi environ 1000 modèles d'inspiration. Elle est accompagnée par l'une de nos conseillères créatrices qui va lui montrer toutes les différentes étapes de montage et aussi lui livrer plein de petits secrets et astuces de fabrication pour la suite, si besoin. L'intérêt d'un atelier, c'est que la cliente repart déjà avec un bijou fini qu'elle a monté elle-même et ensuite un vrai savoir-faire. Vraiment, on est dans la transmission et on souhaite partager tous nos petits secrets.
Alors figurez-vous que même si toutes les fantaisies sont permises, la tendance qui cartonne en ce moment, aussi bien en atelier que dans les boutiques de manière générale, eh bien, ce sont les bijoux années 80, 90, 2000, séquence nostalgie. Alors ne me jugez pas sur mon choix musical, mais je trouve qu'il convenait très bien à l'ambiance. Alors on prend ce qui nous a plu dans ces années et on les fait matcher, histoire de les porter autrement tout de même. On écoute encore une fois Anne-Sophie nous dire quelles sont les perles, accessoires qui cartonnent.
Pour illustrer cette tendance, on va surtout vendre des perles en résine, donc très colorées, volumineuses, géométriques, parfois même un peu régressives, donc des petits cœurs, des étoiles, des nuages, des choses comme ça. On a également tout ce qui est perles-lettres, pouvoir faire les bijoux à message qui fonctionnent très bien et qui étaient justement très en vogue dans les années 90. Il y a aussi les perles Eishi, donc ce sont des petits disques plats perforés au centre qui servaient à faire les colliers de surfeurs dans les années 80 et qui sont proposés donc en coquillage, mais aussi en pâte polymère qui permet d'avoir une palette de couleurs gigantesque et aussi en pierre semi-précieuse, en pierre naturelle type labradorite, quartz, aventurine, enfin on a une large gamme et qui permet d'apporter la petite touche un peu précieuse aux bijoux faits main. Et enfin, la chaîne, la fameuse chaîne de lunettes en acétate. Donc là, c'est vraiment le produit du moment qui peut être décliné en bracelet, en collier et bien sûr en bijoux téléphone qui est l'accessoire du moment.
Alors évidemment, il y a aussi les totoches qui réapparaissent.
Ah, les tutus, je vous verrais bien, Abdel, avec 2 totoches aux oreilles. Ça vous irait bien.
Vous êtes sûre?
Ouais. Moi, je suis pas certaine. Il y a aussi les petits oursons translucides que l'on porte en breloque et pendentif. Ah oui, vous voulez un petit... pourquoi pas. Alors, on aime que ça se voit, que ça claque, que ce soit fun et on ne se prend certainement pas au sérieux comme un contre-pied, finalement, à la situation géopolitique actuelle.
Alors je crois que vous aviez, mais il a disparu, un bracelet lettres à votre poignet.
C'était
votre œuvre, vous l'aviez
fait, disons, c'était ma tentative, parce que moi le do-it-yourself m'effraie beaucoup. Et donc je suis allée à Paris, dans une boutique qui est un peu l'équivalente de celle de Rennes, qui s'appelle Matières Premières, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et j'avais choisi de confectionner un bracelet lettres, que je trouvais ça très intime, très sympa. Voilà, et puis j'étais contente, voilà, c'était moi qui l'avais fait.
Mais vous l'avez tellement bien fait qu'il est tombé dans la rue, quoi.
Oui, le fermoir était aimanté.
Mais voilà, ça marche pas, ça.
Non. Et il a tendance, je crois que ça cartonne aussi sur Etsy.
Et oui, Etsy, je vous en parle assez souvent. C'est un site qui réunit des petits créateurs, amateurs ou professionnels. Vous avez des bijoux totalement régressifs qui vous sont proposés. Certaines personnes vendent également des kits matériels.
Etsy,
si vous souhaitez.
On l'appelle, juste pour nos auditeurs.
Etsy.
Voilà.
Ah donc voilà, donc c'est toujours très très abordable, vous pouvez vous-même vous lancer dans la vente de petites créations, pourquoi pas, histoire de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. En tout cas, sachez que le bijou gris-gris est de retour et qu'il va certainement faire des ravages sur les poignets de ces demoiselles entre 6 et 77 ans.
Eh bien merci Soizic pour cette découverte ou redécouverte, je vais essayer, qui sait, de bricoler un petit bracelet pour mon acolyte Mélanie.
Oh, j'ai hâte.
J'espère que vous allez le mettre tous les jours Mélanie. Bon, maintenant on va passer à la chronique gourmande du jour avec vous Abdel Alaoui. Je suis sûre qu'il va y avoir du miel, que ça va être généreux, tout ce qu'on aime, c'est à vous.
Alors c'est farci d'une pâte d'amande parfumée à la cannelle, à l'eau de rose et à la fleur d'oranger. C'est fin, c'est gras, c'est frit, c'est plongé dans le miel chaud. Il y a du sésame, de la cacahuète,
des fruits secs, hein,
c'est couvert de semoule très fine, de pâte sablée au beurre, de nougat, il y a de l'anis, il y a du fenouil, il y a du citron confit, de l'orange amère, c'est recouvert d'un petit papier, tel un écrin véritable art. Elles sont réalisées avec toute la délicatesse et la précision enseignée de génération en génération, sucrée et riche en saveurs.
C'est quoi ?
C'est la pâtisserie orientale.
Vous m'avez totalement envoûté, Abdel Saïd. Alors, quelle est la différence entre toutes ces pâtisseries orientales existantes ?
Alors, d'ailleurs, qu'on pourrait appeler la pâtisserie du Maghreb ou la pâtisserie du Moyen-Orient. Il y a une grande différence entre les deux pâtisseries. D'un côté, on utilise le sucre, le beurre clarifié et la pâte à filo en Syrie, en Iran, en Palestine, au Liban. Et de l'autre côté, du coup, Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on va plutôt utiliser la feuille de brique, le miel et l'amande aussi.
Moi, je veux bien goûter les deux côtés. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça m'a l'air bon.
Mais quand même, Mélanie, concernant les calories, il y en a combien par pâtisserie ?
On dit toujours très peu, très peu. Hein.
Alors, que ce soit les makrouts, les cornes de gazelle, les shebbakia, vous connaissez les shebbakia ?
Pas du tout.
Cette petite pâtisserie qu'on frit et après qu'on plonge dans le miel. Les baklava, vous connaissez les baklava, ce petit losange là, avec la petite amande dessus. La besboussa, qui est une galette à base de semoule fine, pareil qu'on cuit dans un sirop. Kelbelouz.
Non, je ne connais pas celui-là.
Ça veut dire kelb, c'est le cœur, donc louz, c'est l'amande, donc le cœur d'amande. La ribillette, qui sont une petite sablée comme ça à la cannelle. Alors elles font toutes 200 calories par pâtisserie en moyenne.
Oh, ça va, tranquille.
Ouais. C'est
une séance de sport, c'est tout.
C'est exactement ça. Deux, trois pompes et on élimine tout. Alors chez nous, on rigole pas avec le gras. Comme disait ma mère, oui, le gras est pas bon pour la santé. Et alors, c'est bon pour le moral. Alors mange du gras, mon fils.
Votre mère est une grande sage. Elle nous épate toujours. Allez, quand les mange-t-on ces pâtisseries ? À quelle période de l'année ? Moi, je pourrais en manger n'importe quel jour, mais est-ce qu'il y a des périodes recommandées pour les déguster ?
Moi, je suis comme vous, j'en mange vraiment toute l'année, j'adore ça. Alors, c'est très prisé lors des fêtes religieuses. Là, dans deux jours, c'est la fête fin de Ramadan. Donc, chaque maison orientale qui se respecte embaume en ce moment de belles odeurs de pâtisserie. Il y a de la friture, il y a du miel, il y a du sucré, il y a l'odeur de fleurs d'oranger. Les pâtisseries orientales accompagnent généralement le service de thé à la menthe. Hein, on ne sait jamais, comme ça, à toute heure, il peut y avoir des voisins ou des potes qui débarquent. Et on a toujours ce plateau de pâtisserie orientale qui attend avec ce thé à la menthe bien chaud.
Bon, Abdel, ça suffit. Vous avez mis l'eau à la bouche. Comment on fait pour le faire chez nous ? Une recette simple et rapide.
Alors, on parlait tout à l'heure de baklava, cette petite pâtisserie en losange. Moi, je la fais en mode cigare.
Il n'y a pas moyen quand même que vous fassiez passer un petit peu les trucs qu'il y a devant chez vous, là.
Allez, ça,
alors, moi, j'aime bien savoir de quoi on parle dans ma bouche. C'est important.
Je vous dirai après les noms des boutiques.
Allez-y,
un mélange de pâtisserie. Là, vous avez des cornes de gazelle. Et là, c'est la maison Aleph. C'est hyper bon. C'est de la pâtisserie du Moyen-Orient. Alors, pour faire ces petites cigares baklava, très rapide, hein, il vous faut 8 feuilles de brique, 300 g d'amandes entières, 50 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de cannelle en poudre, 50 g de beurre, 50 g de miel, 5 centilitres d'eau de fleur d'oranger. Alors, évidemment, des ingrédients qu'on trouve partout, hein, assez simplement. Vous faites fondre le beurre avec le miel. Okay,
oh, Abdel, c'est délicieux ce que j'ai là.
La cannelle et la fleur d'oranger. Donc, on prend une casserole, on met le beurre, la cannelle, la fleur d'oranger. Et le miel, on mélange tout ça, on laisse bien chauffer. On va rajouter le beurre fondu avec le miel et on va mettre tout ça dans un robot mixeur avec la poudre d'amande et on va mixer, on va obtenir une farce. Alors cette farce qu'on va venir déposer tout au début là comme ça de la feuille de brique, on rabat les bords, on roule et on obtient un cigare. Ce cigare, on va prendre une poêle, on va faire fondre du beurre avec un peu de miel. On va mettre ces cigares dans cette poêle et on laisse cuire vraiment 2-3 minutes. Juste le temps de caraméliser tout ça et donner du corps à ce cigare du corps.
Je n'ai pas écouté du tout.
Moi, je vois, vous régaler en fait. Quoi.
Tu es en train de tout goûter.
C'est bon. Hein. C'est bon. Alors là, c'est trois adresses. Franchement, moi, j'ai pris les meilleurs.
On va les mettre sur nos réseaux sociaux, évidemment. Mais ça, en plus, on dirait des œuvres d'art.
Alors, c'est Maison Gazelle. C'est Sarah qui a un peu revisité les cornes de gazelle. Donc, il y a des noisettes, du piémont, il y a du chocolat noir grué, il y a des graines de sésame, il y a de l'orange.
Oui, c'est revisité.
C'est revisité, vraiment, c'est revisité.
D'accord, c'est pas comme ça qu'on les trouve au Maroc, par exemple.
La classique, c'est amande, fleur d'oranger.
Voilà.
Et sauf qu'elle, elle est partie travailler la corne de gazelle, un peu comme le macaron qu'on peut
trouver en
France.
Je vous dirai après quel est mon préféré.
Et en termes de calories, on a une génération qui aime pas trop le sucre.
Donc c'est un peu
désucré. Et pas trop gras, donc c'est désucré, dégraissé aussi.
Donc je peux goûter toute la boîte.
Manger tout, là, il y a 400 calories. Pour toute la boîte.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par boucher, il y a 400 calories.
Après, vous avez loose. Lous, qui est une pâtisserie algérienne. Donc
ça, c'est
là,
ça.
Ouais, là, il y a des baklava.
Je crois que c'est mes préférés, franchement.
Il y a des makrout, il y a plein de choses différentes. C'est assez coloré, c'est assez parfumé.
Il y a beaucoup de couleurs, j'avais jamais vu comme ça. C'est très original.
C'est très bon.
C'est très moderne en même temps. Hein.
Ouais, mais c'est ça aussi, cette nouvelle génération de pâtisserie orientale. Ils vont chercher justement dans la modernité, dans le côté un peu esthétique.
Quels
Et là,
vous
on
préférez,
a
vous,
Maison Aleph.
Quel spécialiste, c'est quoi votre préféré à vous?
Moi, j'aime bien.
J'ai pas goûté
en
encore.
En fait, en vrai, plus c'est gras, mieux c'est quoi.
C'est
la baklava qui est en face de vous, là.
C'est quoi le plus gras?
C'est ça, ouais.
Ça, c'est gras. Et ça, c'est quoi?
Ça, c'est la. Faites voir. Alors, c'est le genre de dzeriyat, c'est un mélange comme ça d'amandes, de pâte sablée autour.
Non, ça, c'est léger.
Ouais,
ça.
C'est léger.
Et ça, Adèle, c'est quoi?
Et ça, c'est Maison Aleph. Ils sont dans le marais. C'est hyper bon. Donc, c'est une cuisine, c'est une pâtisserie du Moyen-Orient. Donc, on a une base qui est le kadaïf, genre de cheveux d'ange que vous avez au fond.
Excusez-moi, et là, on va venir. Ça pèse une tonne. Le truc, il mesure 2 cm, il pèse 2 kg.
Et on va venir la farcir de chocolat noir, de chocolat au lait, d'abricot, d'amandes, de noisettes, de pistaches. C'est hyper bon. Allez-y, franchement, les 3 adresses. Là, qu'on va vous mettre d'ailleurs sur Instagram, vous allez voir, c'est une tuerie.
Oh oui, c'est lourd.
Il n'y a pas que les calories.
Moi, j'en ai mangé
poids.
4, ça fait combien de calories? Là, j'en suis à 4.
Là, vous déjeunez pas.
Non,
vous déjeunez pas. Vous dînez pas. Vous petit déjeunez pas.
Bon, Mélanie a la bouche pleine, donc je vais terminer cette émission. Merci beaucoup, Adèle.
Hein, merci, les filles.
Pour tous ces délices. Et je signale d'ailleurs au passage votre livre qui est sorti récemment, dans lequel on peut trouver plein d'autres délices concoctées par vos soins. Le livre, c'est Choukrane, la cuisine marocaine d'aujourd'hui, et c'est chez Marabout. Et bien voilà, bien
merci.
Fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous serons bien entendu de retour lundi dès 11h pour les meilleurs moments de notre émission. C'est bien ça, Mélanie?
Et oui, on verra d'abord si en tant que parent, on a le droit d'avoir un chouchou parmi ses enfants, comment gérer les jalousies à cause de cela justement dans votre famille, et puis on vous proposera aussi tous nos meilleurs conseils pour prendre soin de vos cheveux. Que du bon pour prendre soin de vous et vos proches, alors soyez au rendez-vous. En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Alors, quel est le programme?
Le programme d'Europe Midi, c'est évidemment la campagne des législatives, les négociations, les grandes manœuvres à gauche, LFI et l'EPS qui sont en passe de trouver un accord avant les législatives avec des propositions, vous allez voir, très à gauche. On va en parler, on en parle avec vous au 39-21 et puis on en parle également avec Maud Bréjon, porte-parole de La République En Marche, et Marine Tondelier qui est conseillère régionale Europe Écologie Les Verts. On va parler d'inflation également, les prix grimpent, on a les tout derniers chiffres. À tout de suite.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.